Špatně. Epître aux Galates, chapitre 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voilà jusque-là.
Comme nous avons vu ce matin, le grand sujet dans ce passage, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, c'est notre identification avec Christ. Nous avons trouvé cette expression, ou nous trouvons cette expression au début du verset 5, car si nous avons été identifiés avec lui, nous sommes identifiés avec Christ, d'abord dans sa mort et dans son ensevelissement. Christ est mort, et nous avons vu, nous aussi, nous sommes morts. Nous qui sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi, et nous sommes morts au monde. Nous sommes morts. Pas le monde, pas la loi, pas le péché, mais nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort. Christ a été enseveli et nous aussi. Nous n'existons plus pour ce monde. C'est comme Dieu nous voit. Mais nous ne sommes pas seulement identifiés avec Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Cette expression ne se trouve pas dans l'Épître aux Romains, mais dans l'Épître aux Colossiens et aux Éphésiens. Nous sommes morts et ressuscités, et l'Épître aux Éphésiens ajoute même, nous sommes transformés avec lui, transportés avec lui, ou en lui, pas avec lui, en lui, dans les lieux célestes. Mais quand même, l'Épître aux Romains parle de notre identification avec la résurrection du Seigneur Jésus, et cela a à faire avec la manière de vivre. Ce passage parle beaucoup de la mort, mais ce passage parle aussi de la vie, de la nouveauté de vie. Au verset 4, il est dit « Nous marchons en nouveauté de vie ». Au verset 8, il nous est dit « Que nous vivrons avec lui ». Et au verset 11, il est question de vivre à Dieu. Voilà trois fois, nous trouvons cette pensée de la vie dans ce passage qui parle davantage de la mort. Alors, il est vrai, d'un côté, nous sommes morts, c'est notre position, mais d'autre côté, de l'autre côté, nous sommes aussi vivants. Nous vivons maintenant sur la terre. Nous ne sommes pas transportés dans les lieux célestes, dans l'Épître aux Romains, mais cet Épître et surtout ce passage parle de notre vie sur la terre en nouveauté de vie. La marche en nouveauté de vie. Qu'est-ce que c'est la marche ? La marche, c'est notre manière de vivre. C'est notre comportement. Ça, c'est la marche. Nos actions, nos réactions, les chemins, nos paroles, tout cela, c'est la marche en nouveauté de vie. Autrefois, nous avions aussi une marche selon la chair. Mais maintenant, nous pouvons vivre en nouveauté de vie, et ça, c'est une vie sous la direction du Saint-Esprit. C'est un beau sujet que nous avons devant nous, pendant ces moments maintenant, marcher en nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle vie. Nous possédons le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est possible de marcher selon cet esprit, de marcher sous la direction du Saint-Esprit et non pas sous la direction de la chair qui est encore en nous, c'est vrai, comme nous venons de voir dans la dernière réunion.
Voilà, je voudrais faire une remarque concernant ce que nous lisons dans Romains 8 au verset 9. On a déjà lu beaucoup dans ce chapitre. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et dans notre traduction, il y a une petite note en bas de page qui vient nous dire « L'esprit lui-même et l'état du croyant sont souvent trop intimement liés dans ces versets 1 à 11 pour faire la différence entre esprit avec une majuscule et esprit avec une minuscule et les séparer l'un de l'autre. » Est-ce que ce n'est pas justement alors marcher en nouveauté de vie, qu'on ne puisse plus distinguer ce que j'ai dans mon esprit avec ce que le Saint-Esprit place en nous-mêmes pour que nous avancions en nouveauté de vie? L'expression ne permet pas de faire la distinction entre le Saint-Esprit qui habite en nous et notre esprit, notre pensée. Les deux sont intimement liés. Je voudrais alors ajouter dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 une expression encore quant à cette nouveauté de vie. C'est le verset 11 d'un Corinthiens 12. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. J'aime bien cette expression, le Saint-Esprit opère en nous. Alors, sans doute, en terminant la réunion précédente, on a parlé beaucoup de ce que la chair pouvait encore agir, mais est-ce que l'Esprit ne travaille pas en nous-mêmes, n'opère pas en nous-mêmes pour nous transformer, pour qu'il puisse prendre de plus en plus de place et que cette chair disparaisse de plus en plus, pour que nous soyons en nouveauté de vie? Et cela ne peut que se voir, s'entendre, se remarquer, puisque le Seigneur Jésus lui-même était cet exemple, on le regardait marcher et on voyait cette différence dans sa marche de chaque jour.
Nous avons des exemples de marcher en nouveauté de vie, en contraste avec l'ancienne vie. Nous avons plusieurs termes dans l'Épître aux Éphésiens. On peut lire par exemple au chapitre 2, dès le verset 1, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, dans les convoitises et ainsi de suite. » Puis nous voyons aussi au chapitre 4, toujours dans Éphésiens, verset 17, « Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées. » Et ainsi de suite. Ça, c'est notre marche d'avant. Et puis, nous avons plusieurs exemples de notre marche maintenant. Lisons dans le chapitre 2, au verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Nous avons donc à marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et puis nous pouvons lire au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. » Puis chapitre 5, verset 1, « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés. » Verset 8, « Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Verset 15, « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse,
mais comme étant sage. Voilà comment nous avons à marcher dans les bonnes œuvres, d'une manière digne de l'appel, dans l'amour, dans la lumière et dans la sagesse. Voilà une marche en nouveauté de vie.
Dans l'Épître aux Galates, on a lu le dernier verset que nous avons lu, « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Et en fait, la telle chose, c'était le fruit de l'esprit. Marcher ne se décrète pas. C'est bien ma vie, ma relation avec le Seigneur, cet esprit de vie qui est en moi, et c'est cette relation que j'ai qui va me faire naturellement manifester autour de moi les caractères du fruit de l'esprit. Et d'abord, on a bien remarqué que c'est le fruit de l'esprit. Comme quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure dans la pause, c'est, il y a les œuvres de la chair qui partent dans tous les sens, mais il y a le fruit de l'esprit. Marcher, si on décrète la manière de marcher, c'est la chair qui est en action. Si on impose à d'autres de marcher de telle et telle manière, c'est la religion, c'est ce que l'on veut, mais ce n'est pas cela, marcher par l'esprit. On pense à ce passage quand Jaïrus était venu voir le Seigneur et lui avait dit « Mais ne viens pas chez moi ». Comme moi j'ai dit, un esclave va et il va, et un autre vient et il vient. En fait, c'est cette relation que nous avons avec le Seigneur qui nous fait marcher dans le chemin que le Seigneur a préparé pour nous. Et naturellement, tous ces caractères que nous avons dans l'Épître aux Galates vont se voir. Et on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il est parlé des différents caractères de l'amour. Ce sont des choses qu'on peut peut-être essayer de régler par des règles, mais ça n'a aucune valeur. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est simplement laisser manifester en nous cette relation que l'on a avec le Seigneur, et naturellement, nous allons faire les œuvres que le Seigneur a préparées à l'avance, comme nous l'avons vu dans Éphésiens, et c'est naturellement, nous allons faire exactement ce que, le Seigneur veut que nous fassions. Est-ce qu'on n'a pas l'exemple du Seigneur Jésus ? Ma viande est de faire la volonté de mon Père. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et pour pouvoir faire ces choses-là, parce que lui-même était Dieu manifesté en chair, il était en relation avec son Père. Et si nous essayons, enfin si nous vivons davantage le standard que le Seigneur nous montre, eh bien nous allons naturellement marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas quelque chose que nous allons nous forcer à faire, mais c'est quelque chose qui naturellement va être visible de ceux qui nous regardent marcher.
J'aimerais bien ajouter quelques versets où... à rapport au verset de marche digne que notre frère venait juste de mentionner, commençant avec Éphésiens 4, verset 1, « Marcher d'une manière digne de l'appel. » C'est la première chose, digne de l'appel. Nous sommes appelés des ténèbres à la lumière. Deuxième verset, Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois et que je vous vois, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'évangile. Marcher digne selon l'Évangile inclut aussi d'avoir un même esprit, comme ça c'est important dans nos jours spécialement. Un troisième verset dans Colossiens 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Là, la marche digne est lié avec portée de fruits, c'est ce qu'on trouve dans Jean 15 spécialement. Ça fait partie aussi d'une marche digne dans la nouveauté de vie. Et un dernier verset de 1 Thessaloniciens 2, le verset 12. Pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Là, dans ce verset, nous regardons un peu aussi dans le futur. C'est ce que C'est ce qu'il nous attend avec le Seigneur. Et ça peut être une motivation pour une marche digne au Seigneur. Si nous regardons, c'est ce qu'il nous attend d'être chez lui et avec lui. Et encore peut-être un exemple pratique que nous trouvons, par exemple, dans l'évangile de Luc, le chapitre 5. Avant que je regarde dans ma Bible allemande, excusez-moi, autrement je ne trouve pas si bien le passage. Oui, c'est le chapitre 5, et c'est le récit du paralytique. Luc 5, le verset 25. Et à l'instant, s'étant levé devant eux, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Cette paralytique venait d'être chrétien, si on peut ainsi dire. Et dès le premier moment, il marchait, pouvait marcher en nouveauté de vie. Dès que le Seigneur le guérit, il s'en alla, il prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu, marcher en nouveauté de vie.
Marcher en nouveauté de vie, c'est donc le résultat d'un comportement qui provient d'un changement intérieur. C'est-à-dire suivre des règles religieuses sans que le cœur soit engagé pour le Seigneur, ce n'est pas la marche en nouveauté de vie. En apparence, ça peut être une marche honorable devant les hommes, mais ce ne sont pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Donc notre marche, notre comportement, nos actions, réactions, comme on l'a dit tout à l'heure, nos paroles, ça doit venir d'un cœur tout entier pour le Seigneur. Et j'aimerais souligner un point que nous trouvons dans ce chapitre 6 de Romains, où il nous est parlé d'obéissance. Je pense que là, il y a vraiment un résultat de ce changement qui s'est opéré par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle vie que nous avons, c'est que désormais, il est dit là au verset 12, que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Il n'est plus question, dans cette nouveauté de vie, d'obéir aux convoitises de la chair. Lorsque nous lisons, mais non plus d'utiliser nos corps comme des instruments d'iniquité, mais d'utiliser nos corps comme instruments de justice, il est dit dans ce paragraphe. Et puis, dans la première épître de Pierre, il nous est dit que nous avons été rachetés de notre vaine conduite qui nous avait été enseignée par nos parents, non pas par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Et puis, il nous est dit, donc dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. » Voilà. La nouveauté de vie, c'est l'obéissance à la vérité. Et le Seigneur dit, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Alors, il ne s'agit pas de commandements légaux, une liste de règles à suivre, comme on l'a dans la religion. Il s'agit de... En fin de compte, le Seigneur n'a pas donné beaucoup de commandements. Et pourtant, tout ce qu'il dit s'impose à notre cœur si nous l'aimons. Et donc, cette obéissance, c'est une obéissance, une soumission de cœur au Seigneur. Et ça se voit dans le comportement de quelqu'un qui est né de nouveau. Il se soumet à la volonté du Seigneur. Il se soumet à la vérité. Voilà, la parole nous enseigne ceci. Tiens, c'est contre ce que je pensais jusque-là, ou ça n'arrangeait pas l'homme que j'étais avant de me convertir. Mais c'est la vérité. Alors, si j'aborde les Écritures et l'enseignement de la Bible en sachant que ça me vient du Seigneur. Alors j'obéis, et j'obéis de cœur. Je suis heureux parce que ce nouvel homme que je suis, après cette nouvelle naissance, après avoir reçu l'Esprit Saint, eh bien c'est une grande joie, il se complaît dans les enseignements de la parole de Dieu. Ce n'est pas pénible, le Seigneur le dit. Apprenez de moi, mon joug est léger, mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Alors évidemment, parfois on entend dire, oh, la vie chrétienne c'est pénible. Oh, les frères, ils insistent sur ceci, sur cela. Mais si nous pensons que la vie chrétienne et la doctrine, elle est pénible, n'oublions pas que la doctrine, elle vient de Dieu. L'enseignement, il vient de Dieu. C'est parce que, si nous pensons que l'enseignement qui vient de Dieu est pénible, c'est parce que nous l'abordons par la chair. Or, ce n'est plus notre cas, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes morts au monde, nous sommes morts au péché. La mort, ça veut dire que nous n'avons plus de relation. La vie, ça veut dire que nous avons maintenant une relation. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, dans nos péchés, ça veut dire lorsque nous n'avions pas de relation avec Dieu. Mais maintenant, nous l'avons vu, nous avons une relation avec Dieu, nous avons la vie de Dieu. Et donc, abordons l'enseignement biblique et avec cette nouvelle vie que nous avons. Elle ne sera pas pénible. Et montrons à nos jeunes, nos enfants, ceux qui nous entourent, que ce n'est pas un fardeau lourd que de marcher pour plaire au Seigneur, mais que c'est quelque chose de bon, de saint, et que ça fait partie du salut que nous avons reçu, de cette bonne nouvelle que nous sommes maintenant délivrés du monde.
J'aimerais seulement ajouter deux exemples de la parole de Dieu qui nous montrent que la nouvelle vie est une chose qui nous fait très très joyeux. C'est de Acte 8, par exemple, c'est le premier exemple de Philippe. En Acte 8, nous le trouvons. Il était converti, il était baptisé, oui. Et après, nous lisons le verset 39, Acte 8, verset 39. Et quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Ça veut dire, il semble normal que nous sommes joyeux, que nous avons la joie si nous avons la nouvelle vie. Deuxièmement, un chapitre plus tard, c'est le chapitre 9e. Nous connaissons peut-être l'histoire dans le chapitre Acte 9, où Saul était à la chemin à Damas. Et tout à coup, en verset 10, le Seigneur a cherché ou trouvé Ananias pour lui faire un ordre. Et il dit, Ananias, en verset 10, et il dit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et maintenant, car voici, il prie. » Ça veut dire un deuxième signe, une chose qui semble normale pour la nouvelle vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous si nous avons à un côté la joie et deuxième côté la prière. C'est très important pour nous.
Un exemple de ce qui vient d'être dit, la nouvelle vie, c'est être joyeuse, c'est de prier, n'est-ce pas l'apôtre Paul? Il a une vie si difficile, si compliquée, et on le voit tout le temps se réjouir. Il se réjouit de l'état de l'Assemblée, il se réjouit de voir des frères, il se réjouit pour tout. Et pourtant, que de souffrance n'a-t-il pas connu? Et nous le voyons tout le temps en prière. Passer des nuits entières, la sollicitude qu'il avait pour toutes les assemblées. Quel exemple d'une nouvelle vie de prière et de joie.
Nous avons parlé des deux natures que nous avons, la vieille nature et la nouvelle nature. Et ces deux natures sont toujours actives, ou ils veulent être actifs. Nous avons comparé ces natures avec deux arbres qui portent du fruit. La vieille nature, le péché, produit des fruits qui sont toujours mauvais. La nouvelle vie, la nouvelle nature, ou l'Esprit Saint, produit toujours des bons produits. Ça ne peut être différent. Nous avons lu ces versets dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Et nous avons lu des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, ce sont les résultats de l'activité de la vieille nature en nous. Et cet arbre produit que des fruits mauvais. Nous avons lu, je crois ce matin, cette liste, tu l'as lu, cette liste de mauvaises œuvres de la chair, de la vieille nature. Ça, c'est négatif. Par contre, l'apôtre parle du fruit de l'esprit. Il ne dit pas les œuvres de l'esprit. Ça ne serait pas faux, n'est-ce pas? L'esprit produit des œuvres. Nous avons lu ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Pas des bonnes œuvres pour acquérir quelque chose, comme tu viens de dire ce matin, mais des bonnes œuvres parce que nous avons obtenu le salut. Alors, l'Esprit Saint, bien sûr, il produit des œuvres. Mais dans ce texte, dans l'Épître aux Galates, il est question du fruit de l'Esprit. Pas les fruits, mais le fruit de l'Esprit. Et ensuite, nous trouvons ces 9 caractères qui sont mentionnés. Pas des œuvres ici, mais des caractères. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des activités, mais ce sont des caractères. Quels caractères? Les caractères de Christ, n'est-ce pas? Voilà, le modèle pour nous, aussi le modèle pour la nouvelle vie. La nouvelle vie produit des fruits qui correspondent à Christ, qui sont dignes du Seigneur Jésus. Et c'est un fruit. 9 caractères, un fruit. Qu'est-ce qu'on fait avec un fruit? On voit un beau fruit. Qu'est-ce qu'on fait? On aime regarder. On aime manger. Pour qui est-ce que nous portons ou démontrons ce fruit de l'esprit? Pour qui? Pour notre propre plaisir? Non, pas du tout. Hein? Pour qui est-ce ce fruit? Pour Dieu. C'est le désir du Saint-Esprit que nous marchions d'une manière que Dieu soit glorifié en nous en voyant quelque chose de son Fils en moi et en toi. N'est-ce pas? Je répète, c'est le désir de l'Esprit Saint qu'il produise dans notre vie quelque chose des caractères du Seigneur Jésus pour la joie et pour la gloire de Dieu. Le fruit de l'Esprit. L'Esprit, comme nous avons dit, il est opérant. L'Esprit, il est toujours actif. Et nous pouvons laisser agir la chair ou nous pouvons laisser agir le Saint-Esprit. Et je suis sûr que c'est le désir de nos cœurs de laisser agir le Saint-Esprit de plus en plus.
C'est très beau de penser à la joie que Dieu, notre Père, celui qui nous a engendrés spirituellement. Nous sommes nés de nouveau, non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. C'est très beau de penser à la joie de Dieu, notre Père, qui voit son enfant refléter dans sa marche, de manière pratique, les caractères du Fils unique, Bien sûr, le Fils reste unique au-dessus de tous. Mais et c'est lui, et non, et il nous a donné ce modèle qui est Jésus-Christ. Il ne nous a pas donné un modèle moindre que la perfection même en Jésus-Christ. Mais quelle joie, en effet, de porter ce fruit pour la gloire de Dieu, pour la joie de Dieu. Et il y a aussi un passage dans la troisième épître de Jean. Est-ce que moi, qui suis né de nouveau, j'ai de la joie à voir le fruit au travers de mon frère, de ma sœur, le fruit qui revient à Dieu? Eh bien oui, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean le dit ici, troisième épître de Jean, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors, est-ce que nous partageons cette joie de Dieu? Si nous sommes en communion avec Dieu, alors nous allons aussi avoir de la joie, non seulement dans notre propre marche, si nous sommes obéissants au Seigneur, la joie de la communion avec Dieu, notre Père. Il y a beaucoup de joie là-dedans, mais aussi de voir dans les autres ce qui apporte de la joie à Dieu, alors ça m'apporte aussi à moi de la joie. Il le dit aussi déjà dans sa deuxième épître, l'apôtre Jean dit au verset 4 « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. »
Le fruit, c'est pour le Seigneur, mais pour le bénéfice de notre entourage. On est peut-être tenté de dire, voilà, pour moi, c'est la joie, c'est quelque chose que j'aime bien, d'être joyeux. La douceur et la tempérance, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qu'il est écrit ici. C'est les 9 caractères, comme nous avons entendu, qui vont ensemble dans un équilibre. Et c'est pour le bien, premièrement, pour les frères et sœurs, et aussi, deuxièmement, pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique.
Je trouve frappant, quand on lit, par exemple, l'Épître aux Éphésiens ou l'Épître aux Colossiens, qu'on ne voit pas l'exhortation à mortifier nos membres, à revêtir, etc., au tout début. Mais on a d'abord les choses merveilleuses que l'Esprit de Dieu nous révèle. Et on voit, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, les prières pour qu'ils sachent donc quelle est l'espérance de leur appel, etc. Après, la prière pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Je peux juste relire le passage courtement dans Éphésiens 1. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père, c'est en Éphésiens 3, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, etc. Et ensuite, on voit au début du chapitre 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel. Dans l'Épître aux Colossiens, on voit qu'il est parlé au chapitre 3, on voit précédemment, dès le début de l'Épître, mais au début du chapitre 3, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. » Et alors, suite à cela, suit ce qu'on a lu déjà, donc « mortifier d'une part, renoncer et ensuite revêtir la parole du Christ habitant vous richement », verset 16. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, on lit si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans l'Épître aux Galates, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Il me semble que là, nous savons que là, nous avons la clé. C'est qu'on peut se poser la question, mais notamment quand on est plus jeune, on peut se poser la question, mais alors, par quoi faut-il commencer? Par mortifier les choses qui sont sur la terre, à maintenir ma chair dans la mort, ou à nourrir le nouvel homme en m'occupant de Christ? La parole nous dit les deux. mais d'où tirer la force? Et si on se souvient de Marie et de Béthanie, il me semble un exemple assez frappant d'une âme, bien que n'ayant possédant pas l'esprit, elle avait été assise aux pieds de Jésus, elle avait contemplé, son cœur en était devenu rempli, et elle a eu l'intelligence des choses que tous les disciples n'ont pas eues. Pour au bon moment faire une chose que le Seigneur a hautement appréciée. Elle a brisé un vase d'albâtre, nous le savons, qui coûtait beaucoup d'argent, et la maison était remplie de l'odeur du parfum. Le Seigneur était véritablement adoré par cette femme. Elle a fait ce qui était vraiment au moment de faire, ce que les disciples n'ont pas fait. Donc nous voyons la source de la force pour nous, comme c'est de marcher par l'esprit, vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc là, comment avoir cette force, comment avoir cette énergie pour, dans la vie pratique de chaque jour, quand par exemple on me dit une parole blessante, comment réagir de la bonne manière? Comment mortifier ma chair à ce moment-là et faire que l'esprit agisse en moi? Eh bien, c'est en regardant habituellement au Seigneur, c'est d'avoir une marche régulière, habituelle avec lui, et de ce dont le Seigneur va nous remplir, puisque comme il a été dit, l'Esprit de Dieu ne veut que nous parler des choses de Dieu, mais il ne le peut pas si des choses non jugées sont en nous. D'où la nécessité de mortifier notre chair sans miséricorde, et en même temps de nourrir notre nouvel homme avec abondance, pour que quand les difficultés se présentent, ce soit l'esprit en nous et non pas la chair. L'esprit veut toujours nous montrer le Seigneur Jésus, Jean 16. Il veut toujours glorifier la personne du Seigneur Jésus en nous, mais si nous sommes charnels, il ne pourra pas le faire. Si nous sommes spirituels, nous serons émerveillés de voir ce que l'esprit nous montre.
Nous voyons ici 9 caractères du fruit de l'esprit. Ça ne s'arrête évidemment pas à 9. Dans Colossiens 3, qui est un peu le pendant, nous avons par exemple l'humilité, nous avons le pardon. Nous savons combien c'est difficile à manifester, mais cela fait partie des fruits de l'esprit. Et alors, pour faire suite à ce qu'a dit notre frère Marco, j'ai posé deux questions. Une question: connaissez-vous beaucoup de frères ou de sœurs qui manifestent tous ces caractères? Et la deuxième question: que diraient les autres de moi, de ces caractères, lesquels je manifeste? Est-ce que nous ne devons pas reconnaître que nous sommes loin de manifester ces 9 et plus fruits de l'esprit? On va peut-être me reconnaître pour quelqu'un qui a de la joie, qui a de la patience, qui a peut-être 3-4 choses, mais il y en a 2 ou 3 où là, par exemple, la patience, elle manque énormément. Alors ici, ce n'est pas une question de doctrine. On pense parfois que les meilleurs croyants, ce sont des frères qui ont beaucoup de connaissances, qui savent expliquer toute la parole. Mais on voit ici le plus simple des frères, la plus simple des sœurs. Elle peut montrer ces caractères-là. Et cela ne demande pas beaucoup de connaissances. Oui, juste de s'occuper un peu du Seigneur, de voir comment le Seigneur a marché. Mais cela ne nous demande pas de connaître toutes les doctrines. Je ne veux pas dire par là qu'elles ne sont pas importantes, mais je veux dire par là qu'une marche qui manifeste ces caractères-là, qui sont donc des fruits de l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous pouvons les manifester, nous les voyons dans le Seigneur, eh bien, que le Seigneur nous aide. Là où nous avons plus difficile à manifester certains caractères, de faire des progrès, pour que peut-être un jour quelqu'un puisse dire « Ah, celui-là, il manifeste tous ces caractères-là. » C'est notre nature, notre chair est toujours là. Et c'est elle qui fait qu'il y a certains de ces fruits que nous avons difficile à manifester. Et pourtant, le fruit de l'esprit, on l'a dit, un fruit qui manifeste tous ces caractères-là.
que nous puissions faire des progrès là où nous avons plus difficile et que nous puissions continuer là où le Seigneur nous a déjà aidés, que nous puissions manifester tous ces caractères, nous arrêter à chacun de ces caractères. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie de tous les jours? Chaque caractère, on peut passer des heures là-dessus, voir les exemples dans la parole. Déjà, le premier, le fruit de l'esprit est l'amour. L'amour. C'est bien, s'il y a bien quelque chose qui manque dans le monde, c'est l'amour. Est-ce que ça ne manque pas trop souvent dans nos assemblées? Alors on dit oui, il faut aimer tous les croyants. Mais l'amour se pratique. L'amour, c'est quelque chose qui se montre, c'est quelque chose qui nous fait agir. Si je dis que j'aime tel frère qui est à l'hôpital mais que je ne vais pas le voir, ou que j'aime les veuves mais je ne vais jamais les visiter, est-ce que c'est vraiment de l'amour? L'amour agit. Je dois agir si je veux manifester l'amour. Je ne vais pas m'arrêter sur tous, mais la joie, on en a parlé, la paix, la longanimité, une patience au-dessus de tout. Est-ce que nous avons cette patience? Et voilà, on peut s'arrêter. La douceur répond une parole douce. Est-ce que parfois dans le droit que nous pensons avoir, est-ce que nous agissons avec douceur? Voilà, marcher en nouveauté de vie, c'est manifester réellement tous ces caractères du fruit. Et avant de m'asseoir, une remarque concernant les œuvres de la chair, verset 20, entre autres les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes. Est-ce que ce n'est pas parfois ce que nous manifestons, même dans l'Assemblée? Et là, bien sûr, nous n'agissons pas par le fruit de l'Esprit. L'amour n'est pas en nous.
Toujours dans la même pensée, il y a des choses que nous avons à joindre les unes aux autres, montrer que c'est un ensemble de caractères. On pourrait lire dans la seconde épître de Pierre, 2 Pierre 1, on lira déjà à partir du verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine. » Ce qui est de la nature divine, c'est ce que nous avons aussi à produire. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez, et on va retrouver 8 caractères qui nous sont donnés et qui sont liés les uns aux autres, qui doivent être joints les uns aux autres. Joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où on croîtra dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, que ces caractères-là, et ces caractères de la nature divine sont manifestés en nous. Et on a à joindre ces choses l'une à l'autre. Il n'est pas dit d'en manifester un ou deux. Non, c'est joigné. On voit et c'est lié la foi, à la fois la vertu, à la vertu, la connaissance, etc. On voit que les choses sont liées les unes aux autres. Et ce qui couronne le tout, c'est l'amour. En
dans l'épître aux Galates, il est le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui commence là, c'est l'amour qui couronne le tout. Comme en Colossiens 3, à la fin, on voit aussi, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça aussi, ça couronne les sept caractères qui nous sont donnés en Colossiens. Et là, on a la même chose. Ce qui couronne le tout, c'est l'amour. Et alors, non seulement on a à y apporter tout empressement. Est-ce qu'on est empressé à manifester cela? Et puis, ces choses, non seulement sont en nous, mais elles y abondent. Il y a une abondance. Cela nous encourage, chers frères et sœurs, chers frères, à manifester ces caractères-là, les joindre les uns aux autres. Ce sont tous des caractères de la nature divine, que nous puissions la manifester ici-bas et refléter quelque chose de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne sera pas oisif ni stérile. On peut être oisif ou stérile, c'est-à-dire qu'il y a, dans le fond, il n'y a rien pour Dieu, en fait. Mais il est dit au verset 11, c'est de l'entrée dans le royaume éternel vous sera richement donnée. S'il y a une riche entrée, il peut y avoir aussi une chiche entrée que nous puissions avoir à cœur de manifester ces caractères-là et y mettre tout notre empressement.
Encore un verset en Hébreux 12. Et au milieu du premier verset, « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. » Donc on a vu que la marche chrétienne était une marche positive ou attractive, et que les caractères qui étaient visibles, c'était la joie, c'était la prière, et les caractères du fruit de l'esprit que nous avons vu en Galates. Mais ça, c'est notre nouvelle nature qui, naturellement, nous donne ces choses. Et si nous cultivons notre relation avec Dieu, naturellement, nous allons manifester ces choses. Mais à différents endroits, il est quand même montré qu'il peut y avoir des choses qui entravent cette vie librement. Et là, nous voyons que c'est c'est une course, non pas une marche, mais c'est le péché qui nous enveloppe si aisément, comme des boulets qui nous traîneraient. Et le péché, ce n'est pas nécessairement quelque chose de grave aux yeux des autres. C'est cette relation, ce matin on a parlé de l'activité de la chair, cette activité de la chair va nous empêcher, va mettre une ombre entre le Seigneur qui est devant nous et finalement cette relation que nous devrions avoir avec lui. Et ça va nous empêcher de marcher. Alors peut-être qu'on va marcher sous une forme d'inertie, comme un navire où le moteur est arrêté, le bateau va continuer encore à avancer en gardant peut-être à peu près la même direction, en tout cas au début, mais très vite, il va y avoir ce dévoyer. Eh bien, que le Seigneur nous aide à avoir des vies de sainteté, des vies qui mettent de côté le péché. Et si un péché, malheureusement, se présente à nous, eh bien, il y a ce côté de l'avocat du Seigneur Jésus qui veut justement nous purifier, qui veut nous ramener, nous réhabiliter dans cette marche pour que nous puissions marcher dignement. Le mot « digne », ce n'est pas que nous avons marché d'une manière digne au sens me mettre en avant, c'est plutôt que nous sommes des dignes représentants du Seigneur Jésus ici-bas. Et si nous avons ça devant nous, eh bien tout le côté de la chair, tout le côté du péché, nous allons le rejeter comme nous venons de le voir en Hébreux 12.
Ce verset qui nous montre comment marcher s'adresse à nous comme traversant la terre, il y a un autre regard que la parole nous donne aussi, particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, mais aussi en Colossiens 3, le premier verset qui a été lu. Donc, j'aimerais relire. « Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. » Là, c'est regarder en haut. Ce n'est pas regarder par rapport à nous-mêmes, comment appliquer la parole en avançant sur cette terre. C'est nous occuper des choses qui sont en haut, des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est nous occuper des conseils de Dieu qui nous sont montrés dans la parole, des gloires de Christ et de sujets semblables. Alors nous regardons en haut, et où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est une exhortation à faire ainsi. Et si nous faisons ainsi, bien les choses de la terre, eh bien, elles nous intéresseront de moins en moins. Alors, la télévision sera fermée et nous n'écouterons pas tout ce qui se passe autour de nous. Cela aura moins d'importance. Je le dis pour moi-même, bien sûr. Alors, nous avons donc là une indication de la priorité, d'une priorité à avoir, pas de caractère à refléter, mais la priorité, c'est de regarder les choses qui sont en haut, et le reste suit, le reste suivra. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, cette vie, on a parlé de sainteté, si nous ne faisons pas attention à cet aspect de la sainteté, eh bien, cela va nous freiner. Et une sœur qui peut être très simple, peut avoir l'exemple de Marie qui nous a été donné, qui vit dans la sainteté, elle peut avoir une relation avec le Seigneur qui est beaucoup plus forte que d'autres qui y font moins attention.
Et tout cela, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. Si nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant, nous avons cette vie de résurrection. C'est ça ce que nous devons montrer dans ce monde où il n'y a que des morts autour de nous, où ceux qui vont vers la mort éternelle, nous sommes des vivants parmi ces morts. Et nous devons montrer que nous vivons par Christ. Si, comme c'est déjà dit dans Romains 6, verset 4, « Comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et c'est par la gloire de Dieu que Christ a été ressuscité. Et maintenant, si nous sommes ressuscités avec lui, nous avons sa vie de résurrection, c'est aussi par la gloire et pour la gloire de Dieu. Il nous a maintenant ici comme ses témoins, comme ceux qui représentent cette vie de Christ sur cette terre. Et ainsi, nous devons montrer par notre vie que nous sommes chrétiens, que nous portons vraiment ce nom chrétien parce que nous avons cette nouvelle vie. Et comme et ça a été maintenant déjà cité dans Colossiens 3, ou déjà avant dans Éphésiens, nous voyons aussi que cette nouvelle vie que nous devons montrer. Et prenons d'abord peut-être Éphésiens 4, parce que nous avons déjà lu. Et que maintenant, si nous marchons à partir du verset 20, mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, parce que c'est lui notre vie, le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises profondes, d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. C'est donc ce nouvel homme créé selon Dieu pour tout, c'est lui qui l'a qui veut que nous montrons les perfections, ce fruit de l'esprit. Et Colossiens, encore une fois, Colossiens 3, de chercher des choses, comme le frère vient de lire, des choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est, si nous regardons vers lui, le ressuscité, l'homme ressuscité dans le ciel, c'est cet homme qui est le ressuscité, qui est maintenant notre prédécesseur, c'est celui qui est le premier d'entre les morts, c'est celui qui nous est avancé, celui que nous suivons, celui que nous attendons. Et c'est lui notre vie. Et il a dit, où le Christ, pensez, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, quelques-uns disent, voilà, cette vie, elle est cachée avec le Christ dans les cieux, alors on n'a pas besoin de le montrer ici. Non, parce qu'une vie, une fois cette vie sera manifestée, quand nous venons avec lui, ça sera manifesté que nous appartenons à lui, mais déjà maintenant, c'est lui notre vie, elle est en haut, mais c'est une vie céleste qui agit en nous. Nous devons ainsi montrer que nous sommes des citoyens du ciel et que nous n'appartenons pas à cette terre, que notre vie est en Christ. Et c'est pourquoi nous cherchons aussi les choses qui sont en haut, nous ne cherchons plus les choses qui sont ici-bas. Combien de fois nous devons quand même dire que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de la réussite dans le travail, on cherche une sécurité en ramassant des biens, on cherche la gloire vaine, la gloire humaine. Même, je peux même chercher une certaine gloire en étant ici devant et me glorifier devant vous. Ça, tout cela, ça veut dire, même si je cherche celui qui est en haut, si je veux plaire à lui en tous égards, je montre ainsi que ses caractères et je montre ainsi une fruit à la gloire du Dieu du Père. C'est lui qui veut être glorifié, c'est lui qui veut être honoré et c'est lui qui veut aussi se glorifier à travers de nous.
Juste en pensant à cette question, qu'est-ce qu'on cherche ? Je rappellerai simplement en Jean, chapitre 1er, verset 35 et suivant. Jean 1, verset 35, le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Et ils lui dirent « Rabbi », ce qui interprété signifie « maître », « où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez ». Tout est simple. On voit Jésus qui marche. Nous avons parlé de notre marche. L'Évangile nous parle aussi de la marche de Jésus. Dans ces passages des Évangiles, nous voyons le Seigneur Jésus. Il est le modèle parfait. Il est notre précurseur, il est le modèle parfait. Dans les Épîtres, nous voyons la puissance, la seule puissance qui nous permette de suivre ce modèle, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit-Saint qui nous conduit, qui nous dirige. Nous pouvons marcher par l'Esprit parce que sinon nous ne pourrons pas suivre notre modèle. Mais là, nous voyons le Seigneur qui marche et alors que font les disciples ? Ils le suivent. Et est-ce que ce n'est pas l'un des premiers caractères de notre marche que de suivre le Seigneur ? On a bien souligné que les différents caractères de cette marche, nous les trouvons en perfection dans la vie du Seigneur Jésus, dans ce que le Seigneur Jésus a manifesté. Ils suivirent Jésus et puis le Seigneur leur dit « Que cherchez-vous ?» C'est ce qui m'a fait penser à ce qui vient de nous être dit. « Que cherchez-vous ? Quel est le but de notre vie ? Qu'est-ce qui est devant nous dans notre vie ?» De façon un tout petit peu, sur un angle un petit peu différent, j'aurais juste souhaité juste souligner en ce qui concerne les différents caractères de notre marche dans l'Épître aux Éphésiens, le fait qu'il soit plusieurs fois question de nos paroles. A priori, humainement, nous n'associons pas nécessairement nos paroles à notre marche, mais en Éphésiens 4, par exemple, où que nous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, etc., tout commence par... Nos paroles sont extrêmement présentes. Verset 25, « Ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. » Et puis, un peu plus loin, verset 29, « Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. » Et puis, au verset 31, nous sommes exhortés à abandonner toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure. Ces choses-là aussi soient ôtées du milieu de nous. Puis il y a le pardon. Nos paroles font partie, au sens de la parole de Dieu au sens chrétien, nos paroles font partie aussi de notre marche, c'est-à-dire de la façon dont nous réalisons, manifestons pratiquement la vie de Christ en nous, notre vie chrétienne. Et nous savons tous et nous sentons tous combien souvent nos paroles n'ont pas été ce qu'elles devraient être et le mal qui a pu en résulter. Donc soyons aussi attentifs à nos paroles. Il est rappelé ici que nos paroles devraient être dans un esprit de grâce, devraient être propres à l'édification et communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Les paroles du Seigneur Jésus étaient des paroles de grâce. Et jamais homme ne parla comme cet homme, comme lui. Et bien que, en le suivant aussi, nous, cet aspect de notre marche, les paroles que nous exprimons, puissent aussi être... Nous puissions aussi avoir cela à cœur de le réaliser.
Courtement encore une pensée en 2 Corinthiens 4, 2 versets, versets 10 et 11. Portant toujours, partout, dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus, ce qui vient de nous être dit, la vie de Christ en nous, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. La vie de Christ en nous, qu'elle soit davantage vue, vécue. Et il y a en même temps la mort de Jésus, ce qu'on a vu ce matin-là. Être mort aussi au péché, la mort avec Christ et la vie de Christ en nous. L'apôtre disait, pour moi, vivre, c'est Christ.